Chapitre 3. Un petit homme, le vieux Charles, camionneur chez Latouche. Il marchait en sautillant, le corps tordu, la tête trop lourde, penché sur l'épaule, et dans son visage chafouin, où la peau salie de poils collait aux os, les yeux laissaient filtrer un regard sournois. Il tailla de lui-même sa moustache à l'américaine. Ses vêtements lui flottaient autour du corps. Il portait, sur un pantalon à rayures, une vareuse militaire qui lui battait les genoux comme un manteau. Une paire de bandes molletières, les jours de pluie, lui étranglaient les jambes. Le vieux Charles venait de la campagne. Il aimait ce métier de camionneur, ses écuries, ce fumier dans la cour qui lui rappelait les fermes de la Beauce. Il avait son idée, faire chasser le palefrin et s'emparer de sa place. Aussi tournait-il autour du gros Latouche comme un moustique. Il le flattait et grimaçait pour lui sourire. Jamais il ne buvait un verre chez le couvreur sans l'inviter. Idée fixe, désir de maniaque dans sa souveraine détraquée. Un beau jour, il arriva à ses fins, Latouche renvoya le palefrin. Alors on vit le vieux Charles triomphant, les vêtements hérissés de paille, circuler du matin au soir dans la cour, agitant ses bras maigres et semant le désordre partout où il passait. Il interdisait l'entrée des écuries aux cochers, qui cherchaient toujours à chiper une ration d'avoine supplémentaire pour leurs bêtes. « Va t'occuper de ta bagnole » criait-il, « et laisse-moi soigner les chevaux à mon idée. » Du grenier, situé au rez-de-chaussée de l'hôtel, il allait aux écuries, le corps enfoui sous la paille qu'il transportait pour préparer la litière. Puis il tournait autour des bêtes, les effrayait par ses cris et ne perdait pas une occasion de leur allonger un coup de pied en vache. « Hé, Mistouf, approche un peu !» Une bonne bourrade, le cheval regimbait. « C'est comme ça, sale carne, attends tes côtes !» Il mordillait sa moustache et frappait plus fort. On lui dit qu'il avait une vengeance à assouvir. À l'abreuvoir, dès que les chevaux avaient bien commencé à boire, il les arrachait de là et, brandissant son fouet, les reconduisait, assoiffés aux écuries. Il tirait vanité de sa place. Il était fier de tout. De son panama qu'il enfonçait sur ses oreilles décollées, de son gilet blanc crasseux, enguirlandé d'une chaîne qu'il tirait souvent pour regarder l'heure à sa toquante. Il sautillait, hop, hop. « Dis donc, vieux Charles, tu vas à la noce ?» criaient les cochers. Il faisait une grimace, puis, comme les autres n'en finissaient plus avec leurs blagues, il leur tournait le dos et, furieux, entrait aux écuries. Il saisissait d'un fouet, se glissait près des chevaux avec des ruses de sauvage, et le visage frémissant de joie, il frappait. Quand venait l'heure de déjeuner, le vieux Charles arrivait chez le couvreur. Louise, qui le méprisait, ne répondait pas à son salut. D'un mouvement de tête, elle lui désignait un coin de table où il s'installait avec sa nourriture. Une bonne miche de pain, un peu de charcuterie, ou bien un plat du jour. Le couvreur fournissait boissons et couverts. Le vieux Charles sortait de sa poche un couteau à cran d'arrêt et commençait à manger. Sur le pouce, comme il disait, se servant de ses doigts plus que de la fourchette. À chaque repas, il vidait sa chopine. Lorsqu'il avait fini, il se curait les dents avec la pointe de son couteau, ou bien, une vieille habitude de campagnarde, il ramassait les miettes de pain éparses sur la table et les fourrait dans sa poche. Il admirait ses mains, ornées de bagues de cuivre achetées à des camelots. Il fredonnait en se tortillant sur la banquette. On lui demandait d'en pousser une. Il se croyait un talent de tragédien et ne se laissait pas prier. Planté au milieu de la boutique, il commençait déjà à rouler des yeux et lever les bras, quand Louise intervenait. Dites donc, on n'est pas à Charenton. Laissez-le, patronne, disaient des voix. Mais qu'il aille faire ses singeries chez la touche. Le vieux Charles, déconfit, quittait la boutique, regagnait les écuries, faisait claquer son foie et tempêtait. Fumier, bande de carne! On entendait alors le bruit sourd des chevaux qui frappaient leurs bas flancs. Un soir, le couvreur s'apprêtait à fermer boutique quand un homme franchit le seuil. Un poivreau, pensa-t-il, je vais l'expédier en vitesse. Un rouge, patron! Le couvreur sursauta, il connaissait cette voix. Il hésita un instant. Le pas le frein, vrai, il ne l'aurait pas reconnu. Une barbe rude lui embroussaillait le visage et jamais ses vêtements n'avaient été si misérables. « Qu'est-ce que vous devenez ?» demanda le couvreur en lui tendant la main. Le palefrin rejeta en arrière sa casquette boueuse. « Rien, patron !» Il haussa les épaules, prit son verre et but lentement comme autrefois. Le couvreur l'observait. Ce visage ravagé, ses yeux tristes et doux. Déjà le palefrin portait la main à sa poche. « Oh non, c'est ma tournée !» dit le couvreur. L'homme remercia d'un geste. Il finit son verre et sortit, après un mouvement machinal, pour remonter son pantalon. Le couvreur vint jusqu'à la porte et le regarda s'éloigner. Le palefrin suivait le quai de Jemmap d'un pas traînant et balançait le trimardeur. Le couvreur le perdit de vue, jeta un coup d'œil sur la pendule et commença, plus lentement que de coutume, à rentrer sa terrasse. Son enfant dans les bras, René arriva à proximité de l'hôtel du Nord. Il était 9 heures. De loin, elle contempla la façade de l'hôtel. Puis elle s'approcha et risqua un coup d'œil par-dessus les brise-bises du café. Julot et Mimard s'appuyaient sur le comptoir. Le patron rinçait des verres. Une femme de ménage balayait la boutique. Son cœur battit, personne ne l'attendait si tôt. Elle hésita, regarda autour d'elle comme pour reprendre courage, et se décida à pousser la porte. Julot, le premier, s'exclama « Tiens, René avec son môme !» Le couvreur, surpris, posa sur le comptoir le verre qu'il essuyait. René s'avança. « Vous avez quitté l'hôpital ?» dit-il. Malgré sa fatigue, elle trouva la force de sourire et de serrer ses mains qui se tendaient. Puis elle tomba sur la banquette. « Voulez-vous prendre un vinéraire ?» proposa le couvreur. « Ça vous remettra d'aplomb. » Elle refusa d'un signe de tête. Elle tenait son enfant sur les genoux comme un poids et était encore malhabile à manier ce petit corps. « Un garçon ?» demanda Julot. Il voulut soulever les voiles et envelopper le bébé, mais elle eut un mouvement de recul. Son séjour à Saint-Louis l'avait déshabitué des hommes. Elle suivait d'un œil inquiet le va-et-vient de la femme de ménage. Une étrangère en train de lui souffler sa place. L'arrivée de la patronne, son accueil cordial, dissipèrent les craintes de René. Louise lui prit l'enfant. « Comment l'appelez-vous ? » « Pierre. » Elle se tut. Louise s'était penchée sur l'enfant et pouponnait déjà comme une grand-mère. « Il est beau, » murmura-t-elle. « C'est vrai qu'il ressemble à Trimaud. »« Patronne, on peut voir ?» cria Mimard. « Non, fichez le camp. Vous allez me l'asphyxier, ce gosse, avec vos cigarettes. »« Allons, par là, » dit-elle à René, en l'entraînant dans l'arrière-boutique. « Vous comptez le nourrir ou bien le mettre en nourrice ?» interrogea Louise. « Il ne demande qu'à venir, ce bébé. » René essuya une larme. Elle était trop lasse pour s'expliquer. « Oui, il faut le mettre en nourrice, continua Louise. Il sera mieux à la campagne qu'à Paris. Renée avait une confiance aveugle en sa nouvelle patronne. Elle hocha la tête. Louise lui rendit son enfant. Et vous tâchez d'être sérieuse, hein? Elle ajouta gentiment, pour aujourd'hui, ne vous occupez de rien. Montez vous reposer. Renée gagna sa chambre. Là, elle se retrouvait chez elle. Mais que de pénibles souvenirs l'y attendaient. Elle fit un effort pour les chasser, posa son enfant sur le lit et tira les doubles rideaux. Grâce aux soins de la patronne, tout était bien en ordre. Le petit continuait à dormir. Elle le contempla quelques minutes. Un flot de tendresse l'étouffait. Elle oubliait les mauvais jours qu'elle avait connus dans cette chambre pour ne plus penser qu'à son enfant. Le lendemain, elle reprit courageusement son travail. Quand elle était libre, elle se renseignait dans le quartier pour trouver une nourrice. On lui indiqua une paysanne qui habitait en Seine-et-Marne et qui se chargea de l'enfant. Alors commença pour Renée une nouvelle existence. Elle vivait seule comme autrefois. Mais maintenant, toutes ses pensées étaient pour son petit Pierre, tous ses baisers pour la photo prise le jour où elle s'était séparée de lui. Sur une fourrure, l'enfant à demi nu étalait son petit corps grassouillet. Une belle photo. Il ne lui restait rien de pareil de ses anciennes amours. Les jeunes gens avaient beau rôder autour d'elle, tous les hommes la dégoûtaient. Louise la fortifiait dans ses bonnes résolutions. Prenez garde, Renée, les clients sont des cochons. Ils chercheront toujours à abuser de vous. Moi, je sais bien, mais ils perdent leur temps maintenant que j'ai mon petit. Et sa grande joie était de recevoir des lettres de la nourrice ou de lui écrire. Le soir, tranquille au fond de l'arrière-boutique, elle faisait sa correspondance. Ses mains étaient gonflées par le travail et le porte-plume lui glissait les doigts. Elle s'appliquait cependant. Oh, je préfère encore tenir mon balai, avouait-elle. Louise lui dictait ce qu'il fallait écrire. Mettez, on vous enverra du petit linge et un colis la semaine prochaine. Oui, disait Renée, j'ai le temps d'ici là de finir mes langes. Sa patronne, penchée sur elle, lui indiquait l'orthographe et docile, elle écrivait. Ensuite, elle prenait sa boîte à ouvrage et, l'esprit calme et la chair délivrée de tout désir, elle s'asseyait pour coudre auprès de Louise qui lisait le feuilleton. De temps à autre, des éclats de voix lui faisaient lever la tête. Oh, c'est ce grand fou de Quesnel qui raconte des histoires, murmurait-elle. Elle ne se sentait pas la curiosité de les entendre et se replongeait dans sa couture. Elle était heureuse. Elle vivait en famille avec les Lecouvreurs. Depuis des années, elle n'avait pas connu pareil apaisement. À 10 heures, elle quittait la boutique pour monter à sa chambre. Une chambre accueillante et rajeunie d'étoffes et de dentelles. Encore une idée de sa patronne, cette transformation. Vraiment, elle éprouvait du plaisir à avoir un chez-elle, à s'endormir dans des draps frais après un dernier regard sur la photo du gosse. Les jours glissaient sans ternir son bonheur. Elle travaillait, une chanson aux lèvres. Jamais elle n'avait été si active. Ses chambres étaient bien tenues, l'escalier et les couloirs luisants de propreté. Les clients étaient contents de son ouvrage. Elle recevait de bons pourboires. Une aubaine, cet argent, car ses mois passaient tout entiers à payer la nourrice. Bientôt, elle eut une petite somme et put s'acheter du linge, des vêtements. Tantôt un corsage de couleur criarde ou une combinaison, tantôt une robe à volant ou un chapeau enrubanné. Ah, vous avez bien les goûts de la campagne, disait la patronne quand Renée déballait ses achats. Mais elle était fière de ses acquisitions qu'elle rangeait soigneusement dans l'armoire. Pour plus tard, pensait-elle, quand j'aurai repris le petit avec moi. Un samedi soir, Louise, tentée par un billet de faveur, partit pour le théâtre. Bernard, un jeune électricien qui habitait l'hôtel depuis quelques mois, décida de mettre à profit l'absence de la patronne pour tomber la bonne comme il en était fanté auprès des copains. Il s'embusqua dans le couloir et patiemment attendit. René n'avait jamais été si appétissante. Dans le calme d'une vie saine, elle s'épanouissait. Quand elle parut, Bernard surgit devant elle, et avant qu'elle eût poussé un cri, il lui disait d'une voix suave « N'ayez pas peur, je vais vous inviter à aller au ciné. »« Non, merci Bernard, vous êtes bien aimable, mais j'ai de l'ouvrage pour demain. Je rentre me coucher. » Donc voilà une idée, fit-il déçu. Votre patronne, est-ce qu'elle se refuse un plaisir? Oh, elle sort presque jamais. Mais vous n'avez pas son âge. N'empêche que ce soir, elle est au théâtre. Mais tenez, on reviendra tôt. On joue le mystère de la tour Eiffel à Tivoli. Allons, laissez-vous faire. Depuis longtemps, René n'avait pas été au cinéma. Sa patronne était absente. Ce soir, elle s'embêtait un peu. Tivoli, c'est bien loin. Loin, mais je vous porterai, dit Bernard, qui la sentait faiblir. Elle hésitait. Oh, après tout, c'était une occasion d'étrenner ses vêtements. Bien, mais alors attendez-moi le temps que je m'habille. Si vous avez besoin que je vous aide, proposa-t-il en dissimulant un sourire. Il alluma une cigarette. Lorsqu'il la vit reparaître, il s'écria « Mais vous êtes bien frusqué !» Arrivés à Tivoli, Bernard décida de prendre des loges. « Pour être de face, expliqua-t-il. » En réalité, c'était pour être seul avec elle. On les fit entrer sans attendre et les gens qui faisaient queue au guichet, des secondes, les regardèrent passer. Dans sa robe neuve, René se redressait, rouge de plaisir. Le linge soyeux qu'elle portait lui caressait la peau. La salle était bruyante et déjà bleuie par la fumée des cigarettes. René, aveuglé par la lumière, eut l'impression que de nombreux spectateurs l'observaient. Bernard lui paya des berlingots. Brusquement, la salle fut plongée dans les ténèbres. « Est-ce que vous voyez bien, René ?» demanda Bernard. Elle le sentit qui se penchait. Il s'était parfumé. Elle lui dit « Oh, vous embaumez !»« Bien, j'ai un copain qui travaille chez Oubigor, » expliqua-t-il. « Même si ça vous fait plaisir, je peux vous avoir un litre d'eau de Cologne à prix coûtant. » René ne répondit rien. L'offre lui était agréable. Un gentil garçon, ce Bernard. Tout de même, il l'affolait de près, et cette familiarité lui était presque pénible. Soudain, il chuchota. « Ça vous dit rien, ça ?» Sur l'écran, deux amoureux s'embrassaient à pleine bouche. Elle eut un petit rire gêné. Il lui passa le bras autour de la taille. Elle le laissa faire. Dans la salle, tant d'autres hommes en faisaient autant. On s'embrassait dans la loge voisine. « Il se paie du bon temps, ceux d'à côté, » lui dit Bernard. Alors il s'enhardit jusqu'à vouloir la caresser, mais elle le repoussa. « Si vous continuez, je m'en vais. » Tandis qu'elle se taisait, à la fois troublée et inquiète, il cherchait une autre combine. Il se mit à raconter sa vie, à se plaindre de sa solitude. « Et vous, d'être toujours seul, vous ne vous ennuyez pas? Vos patrons, c'est tout de même pas une société. » Elle se taisait toujours. « C'est vrai qu'avec Tribault, vous étiez mal tombé, » fit-il tendrement. Puis d'une voix qu'il cherchait à rendre persuasive. « Mais faut pas croire que tous les hommes soient comme lui, René. » Je dis pas ça, murmura-t-elle sans conviction. Le mystère de la tour Eiffel était terminé. Elle profita de l'entracte pour se mettre un peu de rouge sur les joues. Elle avait les yeux plus brillants que de coutume et se regardait dans la glace avec plaisir. Quand elle releva la tête, elle vit que Bernard la contemplait. Elle eut à peine le temps de rougir, la salle de nouveau était plongée dans les ténèbres. Le spectacle fini, ils sortirent. Bernard offrit d'aller prendre un verre chez Gruber, place de la République. « Il y a la fête, on regardera tourner les manèges !» Ils s'assirent à la terrasse. En face d'eux étaient installés des bastringues dont les lumières renvoyées par les glaces éblouissaient René. Elle leur refusa un tour de montagne russe. Elle se trouvait bien à sa place. Bernard lui fit boire deux chartreuses et une chaleur pesante commença à lui engourdir les jambes. Elle porta la main à son visage, la musique des orchestrions l'étourdissait, tout se brouillait sous ses yeux. Elle se leva, rentrons. Elle se laissa prendre le bras et ils gagnèrent le canal. Les flonflons des manèges avaient cessé. La nuit était chaude et belle. René s'arrêta et renversa la tête. « Il y en a des étoiles ce soir » soupira-t-elle. Bernard la soutenait. Soudain, elle sentit deux lèvres ardentes lui écraser la bouche. Il l'entraînait et lui murmurait dans le cou des mots d'amour. Arrivé devant l'hôtel du Nord, il sonna. « Attention, le patron a l'oreille fine !» Ils passèrent devant le bureau, sur la pointe des pieds. Quand ils furent au deuxième, Bernard la serra contre lui. Elle était désemparée, tremblante. « Viens » souffla-t-il. Elle ne répondit pas et le suivit dans sa chambre. Louise, qui hurle des essuie-mains, lève brusquement la tête. On a frappé à la porte du bureau. « Qu'est-ce que c'est ? » crie-t-elle sans quitter sa chaise. Personne ne répond. Alors elle se lève et va ouvrir. C'est un inconnu qui porte une valise. « Excusez du dérangement, je cherche une chambre. » L'homme est convenablement habillé. Il paraît timide. Il pose à terre la valise qui lui bat les jambes et se découvre avec politesse. Louise lui jette un coup d'œil bienveillant. « C'est une chambre de garçon que vous voulez ?» demande-t-elle. « Oh non, nous sommes deux, ma femme est restée à la porte. Attendez, je l'appelle. Hé, Ginette !»« J'ai quelque chose au troisième, » déclare Louise. « 45 francs la semaine, ça vous plairait-il »«
Oui. »
« Alors asseyez-vous un instant, je vais toujours vous inscrire. » On montera après. Elle tire de derrière le comptoir le livre de police, un registre à couverture bleue, et l'ouvre avec soin sur une table. Vous avez des papiers? Faut que j'aie tout votre état civil. C'est la barbe, il y a tant d'étrangers à Paris.
Bien sûr, oui, je m'appelle Prosper Maltaverne.
L'homme sort une enveloppe de son portefeuille et la tend à Louise qui hésite une seconde.
Non, on s'y reconnaît plus dans ces paperasses. Maltaverne Prospero, ça au moins c'est facile à retenir. J'ai des Polonais, on n'arrive pas à écrire leur nom. Faut pourtant que je tienne mon livre bien à jour. Dame, un voleur pourrait se faufiler dans l'hôtel. Quelle profession?
Maltaverne prend un air penaud et se penche.
Je suis sergent de ville, ça vous fait rien?
Je n'en ai jamais logé. C'est pas parce qu'on est agent qu'il faut aller coucher sous les ponts. À votre tour, madame.
Mademoiselle Ginette Buisson.
Oh, je vous croyais mariée, remarqua Louise. Oh, d'ailleurs, ça ne me regarde pas. Elle achève d'écrire, referme son livre et sourit à ses nouveaux clients.
Comme ça, tout est en règle. Vous le savez mieux que moi, monsieur Maltaverne, avec la police, on n'en a jamais fini. Ici, le viseur passe tous les deux jours. Montons voir la chambre maintenant. Au troisième, Louise ouvre une porte. Vous voyez, c'est très clair, ça donne sur le canal. Il y a un poêle pour cuisiner, une armoire. Le lit est bon, interrompt la femme. Oh, chez nous, les matelas sont propres, regardez. Elle soulève les couvertures. Maltaverne interroge Ginette du regard. Ça va, dit-il. Alors je vous laisse, monsieur Maltaverne, installez-vous. Il n'a pas l'air dégourdi pour un flic, pense-t-elle en sortant. C'est bientôt l'heure du déjeuner et le couloir empeste la cuisine. Louise grimace. Oh, ces ménages! Ils en font des saletés avec leurs popotes. En passant, elle ouvre la porte des cabinets. Oh, la blonde du 36 m'a encore fichu des cochonneries dans le trou, grogne-t-elle. Jamais elle n'aura le courage de descendre ses ordures aux poubelles, celle-là. Ah, tant qu'on aura des ménages au troisième, on tiendra jamais la maison propre. Pendant que Maltaverne soigneusement installe dans l'armoire le contenu de la valise, Ginette, qu'un rien amuse, ouvre la fenêtre, regarde dehors et bat des mains. Elle n'a, pour ainsi dire, jamais quitté Paris. Elle a des cheveux frisottés, des yeux qui pétillent, le nez en l'air. Elle s'écrie « On est bien tombé, est-ce qu'on va être heureux ici ?» Prosper approuve d'un signe de tête. Puis bras dessous, ils descendent dans la boutique. Quenelle au comptoir bavarde avec le patron. « Qu'est-ce que je vous offre ?» demande le couvreur, qui paie toujours une tournée au nouveau locataire. Prosper hésite, mais Ginette déclare impétueusement « « Servez-moi une amourette, monsieur. »« Une amourette ?» fait Prosper interloqué. « Toutes les femmes sont folles de ce truc-là, » dit Quenelle à la cantonade. Ginette, avec une gourmandise de jeune chatte, lape son apéritif. Elle a déjà lié connaissance avec Quenelle. « Nous sommes arrivés de ce matin, nous habitons au 34. »« Par exemple, et moi au 33. » Il rit. « Faudra qu'on tâche de s'entendre, hein ?» Puis, avec un geste aimable, « Allez, videz votre verre, je paye une tournée. » Quenelle et Prosper sont devenus inséparables. Le dimanche, en promenade, au café, on ne les voit jamais l'un sans l'autre, et bien entendu, Ginette est toujours entre eux. « Propos, tu m'offres un verre ?» demande Quenelle. « Mais tu l'entends, Ginette ?» « Faut-il dire oui ?» Ginette minaude. « Mais tu sais bien qu'il est notre ami. » Quenelle l'enveloppe d'une œillade. « Une perle, cette petite !» Dès les premiers mois, elle est devenue sa maîtresse. Et chaque fois que Prosper a son service de nuit, elle va le retrouver. Il se frotte les mains et flanque sur l'épaule de Prosper une tape à assommer un bœuf. « Ce vieux frangin !» L'autre reste un instant abasourdi, puis rigole. C'est vrai, Quenelle, c'est comme un frère. Entre un ami pareil et une maîtresse, toujours aux petits soins, comment ne pas trouver la vie épatante? Ils dînent souvent ensemble dans la chambre de Maltaverne au 34. Prosper aime ces soirées tranquilles, les fins de repas où l'on digère en grillant une tibiche. Quenelle, avec son accent faubourien, raconte des gaudrioles, ou bien il se chamaille avec Ginette et Prosper est obligé d'intervenir. « Eh, les enfants, soyez sages !»« Mais Ginette peut pas manquer, c'est... » réplique Quenelle. Prosper se renverse sur sa chaise. « Ha ha ha! T'entends ça, Ginette? Viens! Faites la paix, embrasse-la, Quenelle !» « Ben si, puisque je te donne la permission. » Et il rit de les voir embrasser sur la joue. « Allez, encore une fois. Non. » Il a l'air d'un coq en pâte. Quand on le voit arriver chez le couvreur, le visage épanoui, on lui demande « Ça va, la vie de famille ?» Il répond « Oui, mais il sent souvent une intention ironique dans cette question. » Bon, le jalouse, parbleu.
Même une fois, sur son passage, il a entendu murmurer un mot difficile à avaler. Lui, cocu ? Oh, d'abord, Ginette ne connaît personne à Paris. Il n'y aurait que Quenelle. Oui, mais avec celui-là, rien à craindre. N'empêche que s'il est là, cette idée-là l'a travaillé plus qu'il n'aurait voulu. Un autre jour, il est tombé au milieu d'une conversation. La patronne disait « Oh, c'est à croire qu'il tient la chandelle !» En le voyant, elle s'est tue. Sans demander d'explication, il s'est éloigné, perplexe. Est-ce de lui qu'on parlait ? Maintenant, dès qu'il rentre de son service, il se met en civil et descend au café. À cause des cancans, il ne veut plus laisser sa femme seule avec Quenelle quand arrive l'heure de l'apéritif. Son apparition est toujours saluée par un « v'la propro » sonore. Mais il ne sourit plus comme autrefois. Ce sourd de propos lui est même devenu désagréable. Un soir, Mimard et le père de Borger l'avaient, contre son habitude, entraîné dans une partie de cartes. Il jouait mollement, tout occupé sans en avoir l'air, à surveiller du coin de l'œil Quenelle et Ginette qui s'étaient installés de l'autre côté de la table. Il cherchait à surprendre des bouts de leur conversation. Sa Ginette est penchée sur Quenelle, elle lui frôle le visage de ses cheveux blonds. Elle bavarde et soudain éclate de rire. Prosper ne peut retenir un geste d'énervement. Il a mal à la tête. Il lui semble aussi qu'on l'observe sournoisement. « À tout et ratatou !» s'écrie Mimard. « J'ai gagné !» Prosper jette son jeu sur la table. Plusieurs cartes tombent par terre. Il se baisse pour les ramasser. Les jambes de Quenelle et celles de Ginette sont entrelacées. Il se relève et d'un bond, sans réfléchir, se précipite sur Quenelle qui reçoit le coup de poing en plein visage. Les verres, les bouteilles s'écrasent sur le carreau. Ginette pousse un cri et se trouve mal. Quenelle, qui s'est vite ressaisie, serre Prosper à la gorge. « Émile, c'est parlé !» crie Louise. Les deux énergumènes ont roulé au milieu des chaises renversées. Ils écument, se bourrent de coups. On fait cercle autour d'eux sans oser les approcher. Quenelle, plus fort des deux, réussit à acculer Prosper dans un coin et là, un genou posé sur la poitrine de son adversaire, les poings serrés, il hurle « Je t'écraserai comme une merde !» Les yeux de Prosper demandent grâce. Le couvreur se précipite « Finissez ou je vais venir à police ?» Quenelle se relève le premier. Des clients aident Prosper à se mettre debout. On essaie de les réconcilier. Ginette, affalée sur une chaise, continue à sangloter. L'œil poché, la chemise ouverte, les vêtements couverts de sueur, Prosper, longtemps indécis, se laisse enfin traîner vers son ex-ami. Il ne sait plus bien ce qui s'est passé. Peut-être a-t-il mal vu, après tout. On le presse, on le pousse. Il tend la main à Quenelle. « Non, bougonne l'autre, on n'agit pas comme ça avec des copains. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi ? Dis-le donc ce que je t'ai fait. » Mais le couvreur lui prend le bras. « Allons, faites la paix. Ou alors bien, je vous fous tous les deux à la porte. » L'argument est tel que Prosper et Quenelle se serrent la main. Tous les clients applaudissent. « Allez, maintenant, venez prendre un verre, » ajoute le couvreur. Prosper, appuyé au comptoir, trinque avec Quenelle et, encore tremblant, bredouille quelques mots d'excuse. Ginette est là, près de lui, comme avant. Elle l'embrasse. Quelqu'un lui tape amicalement sur l'épaule. Non, vraiment, il ne sait plus ce qui s'est passé. Dire qu'un peu plus, il pouvait perdre sa place de sergent de ville.
Chaque jour, vers 1 heure, Madame Foissin poussait la porte du café. C'était une femme entre deux âges, nerveuse et efflanquée, qui fabriquait en chambre l'article de Paris. Elle demeurait un instant sur le seuil pour appeler ses chiens, deux bâtards qui ne la quittaient pas, puis elle allait s'asseoir devant une table, posait son sac, son fouet, son trousseau de clés, et tout en surveillant le repas de le couvreur, bavardait intarissablement. « Je n'ai plus de goût à rester chez moi, » disait-elle. « Je fais que d'entendre tousser du matin au soir, comme à l'hôpital. » Son mari se mourait de tuberculose. « J'ai beau m'enfermer dans la salle à manger, il est toujours à m'appeler. « Lucie, donne-moi un mouchoir. Lucie, donne-moi de la tisane. Donne-moi ci, donne-moi ça. » Il pense qu'à lui, comme tous les malades. Dame, il souffre, mais c'est bien son tour. Dans le temps, ce qu'il a pu être rosse avec moi. La nuit, je peux même plus fermer l'œil. J'en ai une des veines. Par exemple, après le déjeuner, je passe la consigne à mon arpette et je vais faire un petit tour. Mettez-vous à ma place, madame le couvreur. Et puis, il faut bien promener les cabots. Louise, à laquelle ce récit coupait l'appétit, approuvait par complaisance. « Oui, bien sûr, on peut pas l'impossible. »« Oh là là, ça fait bientôt 2 ans que ça dure, » reprenait madame Foissin. « Même qu'on y a bouffé nos 4 sous. »« Enfin, ça finira bien par finir un jour, faut l'espérer. »« La touche, il n'est pas encore venu, patron. »« Non, on n'a pas vu ce matin, où il a dû faire les halles. » Madame Foissin commandait un second café. Les chiens, après d'innombrables tours, se soulageaient sur le carrelage. Alors Madame Foissin se dressait. « Oh, saloperie, où est mon fouet? Kiki, Colette !» Elle tordait la bouche à chaque syllabe et prononçait « Tolette ». Elle prenait Kiki par la peau du dos et lui distribuait un semblant de correction. Puis elle continuait à bavarder avec Louise. « Tiens, vous mangez des salsifis. J'en ai fait la semaine dernière. Quand on vit comme moi dans la pharmacie, ça ravigote. C'est bon, voilà, quelle barbe à éplucher !» Enfin, engoncée dans ses vêtements de camionneur, la touche entrait. « Vous attendez depuis 1 heure, » glapissait madame Poissin. « J'en suis à mon 2e jus, n'est-ce pas, patron ?» La touche quittait en soufflant son paletot de cuir, s'asseyait à côté d'elle et prenait Kiki sur ses genoux. Les coudes sur la table, donnant de temps à autre une tape à Colette qui jappait d'impatience, madame Foissin écoutait religieusement parler le camionneur et le mangeait des yeux. La touche lui confiait les difficultés de son métier, s'arrêtant entre 2 phrases pour boire une gorgée de café et passer sa main sur sa grosse moustache humide. Un beau jour, il déclara. Oh, j'en ai assez, tout me retombe sur le dos. J'ai vu le père André comme secrétaire, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est trop vieux. Oh, tenez, il me faudrait quelqu'un de sérieux, d'intelligent, d'actif, une femme au besoin. Madame Foissin sursauta. Patron, fit-elle pour dissimuler son trouble, Demare. La touche vida son petit verre, fit claquer sa langue. Puis il demeura silencieux. Madame Foissin remuait distraitement son trousseau de clés. « Oh, je pense comme vous, » murmura-t-elle. La touche continuait à la regarder en dessous. Alors elle se leva et régla les consommations. Ils s'éloignèrent pour causer plus librement. « Hum, » dit Louise, « ça chauffe. » Elle ne s'en indignait pas. Madame Foissin avait une vie difficile avec son malade. Et la touche était célibataire, après tout. Un matin, à l'improviste, Madame Foissin va la retrouver au fond de la cuisine. « Je voulais vous demander quelque chose, madame le couvreur, entre nous. Est-ce que vous auriez une chambre libre 2 ou 3 fois la semaine pour 1 heure ?»« Oh, une chambre, oui, je veux bien vous rendre service. » « Ah, mais tout de même pas pour ces choses-là. Madame Poisson n'insista pas. Toutefois, elle dut trouver gîte ailleurs, car à partir de ce jour-là, elle afficha sa liaison sans vergogne. Les clients de l'Hôtel du Nord l'appelaient la mère Latouche. Elle ne s'en formalisait pas, au contraire, elle en riait. Le dimanche, elle sortait avec le camionneur. Ils allaient, bras dessous, passer la journée à Villeparisis, dans un terrain que Foissin, le tuberculeux, avait acheté jadis, et où l'avait installé, en guise de vide-bouteille, un wagon sans roue acquis au rabais après la guerre. « C'est pas chic comme une vraie villa, » disait Madame Foissin, « mais l'été, on y est au frais. On y passe de bons moments dans cette corbuse, dit Latouche. » À l'automne, le coureur fit repeindre sa boutique par Cerruti, le marchand de couleurs de la rue de la Grange-aux-Belles. Du beau travail. Faux marbre sur les murs, faux chêne sur le comptoir. Les vieux de l'hôtel ne revenaient pas. Ils vont vendre, supposait-il. Mais non, les recouvreurs, dont les affaires marchaient bien, voulaient seulement que leur maison eût bonne mine. L'hôtel du Nord avait la réputation de servir du bon café. Chaque jour, après leur déjeuner, les ouvriers venaient y prendre le jus. C'était le coup de feu pour le couvreur. Il se démenait et finissait par contenter tout son monde. Lorsque les bruits de sirène annonçaient la reprise du travail, le débit se vidait en quelques instants. Il ne restait que les feignants, les rentiers, ou un vieillard impotent comme le père de Borgé. « On s'en va, mais on vous laisse le berlord et la merlande !» criaient les ouvriers en claquant la porte. Les ramillots, en effet, demeuraient accoudés au comptoir. Un drôle de ménage. Ramillot était garçon, coiffeur et sa femme modiste. Avec sa barbiche en fer à cheval, ses moustaches de chat, ses pommettes couperosées, ses commandements rauques dans la voix, le merlan faisait penser à un sous-off. Comme un vieux militaire, il portait sous son veston d'alpaga une ceinture de flanelle rouge. Madame Ramillon n'était pas belle. Son visage était criblé de petites véroles et ses traits creusés par l'alcool. Elle louchait, un tic lui tordait la bouche. Toujours vêtue d'un manteau garni de fourrure rélimée, elle ne mettait pas de chapeau. « Ils me tiennent pas sur le crâne, » disait-elle. Les Ramillons habitaient un vieil immeuble rue Bichat. Sans enfants, leur fille était partie avec un imprimeur. Mais ils possédaient un chat, un vieux matou, dont ils tiraient grande fierté. « Natol, » expliquait Ramillon en montrant son poing, « il les a grosses comme ça. » Louise riait. Donnez le genre, se disait-elle, s'il ne se saoulait pas. Elle était indulgente pour le merlan et la merlande qui lui avaient donné un chien de garde, Badour, un bâtard de fox terrier. Le lundi, Ramillon prenait son congé hebdomadaire. Suivi de sa femme, il courait les bistrots qui ce jour-là régalaient selon l'usage. On les voyait passer de la chope des singes au bon coin, du café de la capitale à l'hôtel du Nord. Ils y échouaient, les vêtements en désordre, le visage congestionné et suant l'alcool. « Patron, regardez ma bourgeoise !» hurlait le merlan. « Elle est saoule !»« Je suis saoule !» ripostait la merlande. « Vous m'avez déjà vu saoule, patron ? C'est ce cochon-là qui est saoule !» Les Ramillons se battaient souvent. Le merlan avait toujours le dessus. Un soir, à l'heure de la manille, la merlande arriva chez le couvreur. Elle ouvrit son vieux manteau que maintenait fermé une broche de verroterie et découvrit ses épaules maigres, bleuies de coups. « Oh, j'ai le corps que je ne le sens plus !» gémit-elle. Elle eut un sourire nerveux. Sa broche scintillait. Elle la prit et la présenta dans la lumière. « Il est beau, mon diamant !»
C'est le seul qui me reste. Oh, Rabillon l'aura pas, celui-là. »
Elle parlait avec une sorte de bêlement dans la voix et tournait sur elle-même en dansant.
« N'est-ce pas que je suis jolie ? » fit-elle.
Elle ramena sur son front quelques mèches de cheveux gris, renversa la tête. Elle serrait des deux mains sa broche sur sa poitrine. Et brusquement, elle sortit. Le Merlan arriva peu après.
« Oh, j'ai donné une raclée à Angèle, » dit-il, content de lui. « Ça l'adresse. Elle me fait bouffer de la charcuterie tous les soirs. »
Il caressa sa barbiche.
« Patron, on joue aux anzis ?»
Le dimanche, lorsqu'il faisait beau, la fille Ramillon venait voir ses parents et la famille au complet s'en allait baguenauder sur les bords du canal. Le Merlan, la casquette sur les yeux, marchait derrière les deux femmes, vêtues comme des chiffonnières, le cou nu, les cheveux en désordre. La bonne entente ne durait guère. Bientôt, on les entendait se chamailler.
« Ah, si t'es pas content de voir trouver ton type !» cria le Merlan à sa fille. « Tu lui diras de te rincer !» Pan, il la giflait.
Il avait la main leste.
Mais la fille était habituée au coup. Elle ne protestait même pas.
Sa mère lui offrait un verre.
Ben, « Vous vous accordez bien pour picoler !» ricanait le Merlan.
Il les regardait avec envie, entrait chez le bistrot, et continuait sa promenade, seul, en sifflotant. Une dépêche à la main, le couvreur entra dans la chambre où René faisait le ménage.
« Tenez, dit-il, voilà pour vous !»
René posa son balai.
« Pour moi ?»«
Oui, Levesque, hôtel du Nord, » fit le couvreur, qui était pressé. René resta seul, le télégramme entre les doigts.
Bon, « c'est peut-être bien de la nourrice, » pensa-t-elle. Depuis 15 jours, elle était sans nouvelles de son gosse.
Elle ouvrit fébrilement le télégramme. Le texte dansa sous ses yeux. « Un enfant ?» Brusquement, le sens de la dépêche l'écrasa. À mi-voix, les lèvres tremblantes, elle lut à deux reprises « Enfant mort » et s'effondra sur le lit. Le visage enfoncé dans la couverture, elle sanglota sans penser à rien de précis. Puis, avec un gémissement de bête, elle se redressa et quitta la chambre. Dans le couloir, elle rencontra Mimar.
« Je vais prévenir la patronne, » lui dit-elle, en claquant des dents.
Il la regarda sans comprendre. Elle titubait, la main sur la bouche pour étouffer ses sanglots. Au palier, elle s'arrêta, essuya les larmes qui l'aveuglaient, et s'accrochant à la rampe, descendit l'escalier marche à marche. Enfin, elle poussa la porte du café avec un « de délivrance » et agita sa dépêche. Louis se précipita.
« Qu'est-ce qui vous arrive ?»
Elle s'empara du télégramme.
« Oh, Émile, le petit de René est mort !»
René était tombé sur la banquette. Son chignon s'était dénoué. Une mèche se déroulait sur son épaule. Elle regardait fixement devant elle. C'était depuis le jour où elle avait cédé à Bernard qu'elle était sans nouvelles de son Pierre. Ah, ça lui avait porté malheur d'être retombée. Elle joignit les mains.
« mon Dieu, pardonnez-moi. »
Un client qui entrait rigola.
« Prenez, vous entendez des voix ?»
Elle se raidit et se leva. Louise s'approchait, cherchait de la consoler. Mais, sans prononcer une parole, elle monta dans sa chambre et s'habilla pour aller à la gare prendre le premier train. Le soir du deuxième jour, les recouvreurs la virent revenir.
Elle était méconnaissable et répondait à peine en bégayant. Elle voulait regagner sa chambre, être seule. Louise l'entraîna dans l'arrière-boutique et put lui arracher quelques mots. Pierrot avait été emporté par des coliques en 48 heures. Les voisines disaient qu'on ne l'avait pas pris à temps. Elle rapportait, soigneusement empaqueté dans sa valise, le linge de l'enfant. Elle étendit sur son lit le bonnet, les rubans, les brassières. Elle les contempla rêveusement, s'en frôla le visage et les couvrit de baisers. Il y avait encore de la vie dans ces petites choses, un relent, une douce chaleur. Elle releva la tête. Des souvenirs défilaient. Trimaud, le petit. Et maintenant, plus rien. Autour d'elle, cette chambre étouffante, une solitude sans issue. Elle laissa tomber ses bras et les reliques qu'elle tenait lui glissèrent des doigts. Mais elle ne se sentait plus la force de les ramasser. 2 semaines passèrent. Quand Louise lui demandait de ses nouvelles, René haussait tristement les épaules. « Je m'ennuie, » disait-elle. Sa voisine de chambre était une corsetière qui menait joyeuse vie. Le matin, elle bavardait dans le couloir. « Quoi, gosse ?» s'écriait Fernand. « Mais ça peut se refaire. Amusez-vous donc en attendant. » Elle fit si bien qu'elle entraîna René au cinéma, au café, enfin au bal musette. René se laissait emmener sans trop de résistance. Même elle se fardait, mettait son corsage neuf et ses beaux souliers qui lui faisaient mal. Elle prenait modèle sur Fernande, employait ses économies à s'acheter des futilités. Mais jamais elle n'arriverait à être aussi élégante que son amie. Ses mains rouges la rendaient honteuse. « Ne soyez pas si timide !» lui répétait Fernande. Dans le bal musette, il y avait des marlous et des gigolos. Autour des tables, des coupes qui dansaient au son accordéon. Des guirlandes de papier décoraient les murs. René ouvrait de grands yeux. Un nuage bleu l'enveloppait. Fernande chaloupait, tandis déjà que René restait là, bouche bée, courdi, bousculé par les danseurs. Alors un garçon l'abordait, elle se laissait emporter. Elle tournait sagement, comme à la campagne, mais l'étreinte de son danseur la faisait céder peu à peu. Tête renversée, joyeuse, elle s'abandonnait au tourbillon. Vers 1 heure du matin, les deux amis regagnaient l'hôtel du Nord. Avant de dormir, René revivait confusément la soirée. La danseur lui avait proposé de faire le tapin. « Faudra que je demande à Fernande ce qu'il a voulu dire. » Fernande lui donnait toutes les explications. Elle l'entraînait en riant dans des hôtels borgnes pour y faire des parties carrées. « Ça te dessale !» expliquait-elle. Louise avait bien essayé de retenir René. « C'est comme ça que vous respectez le souvenir de votre petit, mais rien n'y faisait. » Bientôt même, René découcha. Elle rentrait au matin à l'heure où les ouvriers partaient au travail. Elle se glissait dans l'escalier et les locataires qu'elle rencontrait souriaient de l'avoir nippée comme ça. Elle avait juste le temps de quitter sa robe et de passer un linge mouillé sur ses joues pour enlever le maquillage. Dans la boutique, on l'accueillait par des moqueries et s'il lui arrivait d'étouffer un bâillement, « On est à la gueule de bois » disait-on. Toute la matinée, elle se traînait de chambre en chambre. Elle avait grand-peine à ne pas céder au sommeil. Souvent, elle emportait une petite fiole de rhum dans la poche de son tablier, et lorsqu'elle n'en pouvait plus, elle buvait une gorgée pour se remonter. Enfin, le soir arrivait, c'était la délivrance, elle allait pouvoir dormir. Une nuit, elle était en plein sommeil, quand Bernard vint la retrouver à l'improviste. Lorsqu'elle s'éveilla, Bernard se vautrait sur elle.
« Fais pas de manière !» souffla-t-il, lui fermant la bouche d'un baiser. Au matin, en s'en allant, il lui mit un billet de 100 sous dans la main. À partir de ce jour, elle se sépara de Fernand et ne l'y coucha plus. Elle n'avait pas à se maquiller ni à revêtir son beau costume. Les locataires qui avaient envie d'elle venaient dans sa chambre. On lui donnait un pourboire en échange de sa complaisance. Bientôt même, elle l'exigea. Les lecouvreurs s'alarmaient. Ils craignaient pour le renom de leur hôtel. Ils patientèrent cependant. Enfin, un matin, que René descendait à 10 heures, lecouvreur, exaspéré, lui cria « René, faudra vous chercher autre chose ». Elle balbutia « J'étais malade, patron. » Mais le couvreur l'interrompit. « Non, 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 je ne vous crois plus. J'en ai marre, allez faire la vie ailleurs que chez nous. » Il tapotait nerveusement le zinc du comptoir et sa voix tremblait de colère. René l'écoutait, les yeux baissés. Elle tortillait machinalement un coin de mouchoir entre ses doigts. Louise n'était pas là pour la défendre. Et d'ailleurs, l'aurait-elle défendue? Tout était fini entre elles deux. Elle ne répondit rien, jeta son tablier sur une table et monta dans sa chambre. Paresseusement, elle s'étendit sur son lit, la tête sur l'oreiller. Elle regarda longtemps le plafond. Plus d'un an qu'elle vivait ici. Eh bien quoi? Elle irait chercher fortune autre part. Les 200 francs qui lui restaient de son mois lui donnaient une semaine de tranquillité. Elle se leva et fit sa valise. Oh, ce ne fut pas long. Elle n'était pas plus riche en linge qu'au moment où elle avait quitté Coulommiers. Elle jeta dans le seau avec un tas de détritus et de bricoles les souvenirs qu'elle avait gardés de son gosse. Puis elle décrocha son manteau. Elle était libre maintenant, mais que faire de sa liberté? Elle haussa les épaules. « Oh, je m'en fous !» soupira-t-elle. Et elle descendit prendre congé de ses patrons. Le couvreur, qui était bon bougre, lui proposa un certificat. Somme toute, personne n'avait eu vraiment à se plaindre de son travail. Elle refusa, à quoi bon? Les lecouvreurs lui tendirent la main. Louise, émue malgré tout, murmura « Bonne chance !» René prit sa valise et sortit. « Où aller ?» Indécise, elle s'arrêta sur le pont tournant. Des péniches, qui semblaient porter dans leurs flancs le calme de la campagne, montaient vers la Villette. Elle tourna la tête. Par la rue de l'Ancrie, les voitures gagnaient les grands boulevards. Elle les suivit, sans regarder derrière elle.